Aïe aïe. Ouch. Vous êtes estomaqué. Tu viens de dire quoi? Samedi, angle mort, spécial TVA. Oui, mesdames, messieurs, vous connaissez mon intérêt pour les médias. Et votre déléguée syndicale, d'ailleurs, Mme Elisabeth Crête, nouvelle maire, qui, évidemment, je veux dire, c'est... J'ai même pas eu à... J'y ai écrit en disant « Oui, oui, je le sais, tu vas m'exiger, sinon les plaintes vont fuser, etc. » Donc, me voilà avec les fameuses coupures à TVA et ce que j'ai à dire là-dessus. Alors, assisez-vous, car il y a du stock. Il y a beaucoup de stock. J'ai divisé ça en deux. Puis, sérieusement, j'aurais pu attendre encore, mais là, c'est comme je veux vraiment vous parler de ça. Puis, j'aurais pu attendre encore, lire d'autres affaires, puis me faire une meilleure tête. Je suis content de ne pas l'avoir fait hier. Bien, je voulais le faire hier, puis je suis allé en vélo. Puis il ventait au bout, puis je me suis dit, ah, je vais leur en faire un dehors. Tu sais, des fois, c'est le fun. Je fais ça, entre autres, quand je vais à Québec. Tu sais. Puis c'était pas faisable. Fait que j'ai fait, non, tu sais, je vais dormir là-dessus. Puis, hey, en passant, hier, j'écoutais. Moi, je m'endors toujours sur des. C'est une affaire que je vous ai jamais dit, mais je m'endors quasiment systématiquement sur des conférences de Michel Onfray, qui est un philosophe français qui passe beaucoup à télé, etc. Je l'ai connu à peu près 10 ans dans l'émission On n'est pas couché. Puis j'ai lu 2-3 de ses livres, puis bon, bref, un jour je pourrais vous en parler si vous voulez. Puis lui a lancé dans son coin, en Normandie, ou d'où il vient, une université populaire. Je pense qu'aujourd'hui, ça, c'est plus le cas, là, mais il y a quelques années de ça. Il a fait ça pendant longtemps. Puis une fois par mois, je pense, dans une grande salle à Caen, la ville de C-A-E-N, il appelait ça une université populaire. C'était gratuit, puis c'était toutes sortes de thèmes, mais sur de la philo pointue, tu sais. Puis moi, j'aime ça. Fait que je m'endors là-dessus. Je les écoute pas intégrales, là, comme si j'écoutais, par exemple, des entrevues. Ça, je trouve ça le fun. Mais fouille-moi, c'est mon habitude. T'sais, c'est quasiment tout le temps. Puis hier, il parlait, entre autres, d'un livre que j'ai lu d'un dénommé Proudhon, un d'autres dans les années 1800, si je me trompe pas, qui a écrit un livre qui s'appelle « Qu'est-ce que la propriété? » Puis lui, il analyse ça. Puis son slogan, c'est « La propriété, c'est le vol. » Je peux même pas vous le résumer précisément, parce que je trouve ça un peu compliqué, mais... Il décortique l'idée de la propriété privée, puis telle affaire, tu sais. Puis là, j'écoute ça, mais tu sais, vraiment, je suis en train de m'endormir, là. Les lumières sont fermées, je le regarde pas, là. C'est juste le son, tu sais. Puis, pendant la nuit, j'ai rêvé hyper clair, que je rentrais chez moi, mais c'était comme pas vraiment ici, mais... Tu sais, dans les rêves, on a comme un ressenti qui nous fait dire quelque chose qui est pas toujours ce qu'on voit, mais c'était chez nous. Puis j'ouvre la porte, puis j'entends du bruit dans la douche, puis j'ouvre la porte de la salle de bain, puis je vois un gars, puis une fille... C'est en couleur, là, c'est clair au bout. Puis là, je fais « Qu'est-ce que vous faites ici? » Puis ils me répondent vraiment comme si c'était zéro surpris. Ils disent « Ben, il n'y a plus de propriété privée. » C'est écœurant! Puis là, je fais comme « Non, va-t'en, tu sais, va-t'en. » Puis là, je vois qu'ils sont tous mal. Puis ils prennent leur serviette, puis là, ça arrête là. Mais... ça fait qu'écoutez, pure anecdote pour commencer, mais je trouve ça spectaculaire. Ça fait que, donc, TVA, je vous ai divisé ça en deux. C'est-à-dire les revenus puis les dépenses. En un mot, on va parler des sources de revenus, donc fonds des câbles, toutes ces affaires-là que je ne maîtrise pas à 100%, ça fait que je ne vais pas aller vraiment dans le détail là-dedans parce que je ne connais pas assez ça. Mais aussi les ventes de publicité, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Puis après ça, on va parler des dépenses, donc on va parler du contenu, c'est-à-dire je reçois de l'argent pour faire un projet. Hein? C'est un peu ça. Donc pour ceux qui ne le sauraient pas, jeudi... matin, Pierre-Carl Pelado a annoncé 547 coupures de poste juste à TVA. Grosso modo, ce qu'il fait, c'est qu'il dit ben, la production maison, entre autres, là, mais la production maison des émissions, maintenant, on met tout ça à l'extérieur. Comme Nouveau fait. Nouveau ne produit rien à l'interne. C'est tous des contrats donnés à des producteurs. Puis là, ben, ça contourne, entre guillemets, de façon légale, les syndicats de TVA. Parce qu'à quelque part, tu dis, ben là, je fais pas juste dire je t'enlève ou whatever, c'est je coupe les postes, c'est fini, ça n'existe plus. Là, t'sais. Fait que ce qu'ils ont fait, c'est techniquement à quelque part légal. Évidemment, le syndicat dit c'est incroyable parce qu'ils viennent vraiment juste de se débarrasser là, de leurs obligations. Bon, on en parlera peut-être tantôt. OK, ça, c'est la base. Et rappelez-vous qu'il y a à peu près 2-3 mois de ça, il avait déjà fait 140 coupures, si je ne me trompe pas. Ça fait que les effectifs à TVA, là, puis TVA Sport, tout ça, c'est grosso modo la moitié qui a tombé là, en quelques mois. Fait que c'est pas compliqué, à chaque semaine, il y a une nouvelle que le journal Métro ferme. Fait que je vais essayer là, de naviguer là-dedans, puis de vous mettre ça le plus clair possible. mon point de vue, parce qu'il y a des affaires que vous ne lirez pas vraiment ailleurs. Au niveau des revenus, Pierre-Carl Péladeau a toujours eu un bon point quand il dit « Pourquoi Radio-Canada vend de la pub? » Cet argent-là permettrait de financer les réseaux privés. Et c'est pas une lubie parce que le réseau radio de Radio-Canada est exactement fait de même. Alors, ça vous aura pas échappé, si vous écoutez Radio-Canada FM, il y a aucune pub jamais, rien, niet. Donc, ça veut dire que c'est 100% le fédéral qui donne un chèque pour opérer tout ça. Premier commentaire qu'il faut comprendre avec ça, notamment pour Radio-Canada, c'est une phrase que j'avais dite dans le temps quand j'étais allé chez Spectra. Spectra, c'est le groupe qui fait festival de jazz, francophonie, etc., où j'ai travaillé de... Ben, je vous ai parlé d'un gars, Jacques-André Dupont, là, récemment, là, qui écoutait mon podcast. Bon, ben c'était lui, là, le gars avec qui je travaillais, qui était le VP commandite chez Spectra. Spectra, qui était très, très bien géré. Moi, j'arrivais Juste pour rire, qui était beaucoup plus bordélique. Mais à Juste pour rire, il n'y avait pas autant de subventions, etc. L'humour passant dans les cracks, souvent des crédits d'impôt, entre autres, à l'époque, bon, blablabla. Puis quand je suis arrivé chez Spectra, je remarquais que tout ce que j'entendais tout le temps, c'était crédit d'impôt, t'sais. Puis je me disais, écoute, ça vous tente-tu qu'on commence à vendre des billets avant de parler de crédit d'impôt? Je l'avais déjà emailé à la fille de l'agence. Puis c'était une compagnie qui était très, très bien gérée, mais à un moment donné, j'avais dit cette phrase-là, c'est « Dis-moi comment tu te finances, puis je vais dire comment tu te gères. » Quand tu te finances par de l'argent public, tu te gères pas comme au privé. C'est pas méchant, c'est pas moins bon, c'est juste, c'est pas pareil. Ça fait que quand, dans le temps de Stephen Harper, il avait dit « Moi, je vais couper 600 postes à Radio-Canada. » Écoute, Vincent Gratton avait pris la parole à la disque, puis c'était comme, c'était épouvantable. Mais ça se peut-tu qu'il y avait juste 600 postes de trop? La réponse, c'est probablement que oui. Parce que quand, puis je vous l'ai déjà dit, quand tu t'en vas faire une entrevue à Radio-Canada, les bras te tombent parce qu'il y a deux recherchistes, le réalisateur, le si, c'est comme tu fais. Man, vous faites de la radio. On dirait que vous faites de la TV. Pourquoi? Ça, c'est juste pour te dire que si Radio-Canada se faisait enlever la possibilité de vendre de la publicité et Catherine Tate, la grande boss de Radio-Canada CBC, disait que c'était quelque chose comme... C'était dans un article cette semaine, parce qu'elle passait en comité parlementaire, puis elle s'est fait cuisiner par des conservateurs. Puis c'était quelque chose comme 40 % ou 14 %, je ne sais plus trop, il faudrait que je retourne. Mais bref, il y a une partie quand même non négligeable des revenus qui viennent de la vente de pubs. Mais cette pub-là, quand tu parles de radio, par exemple, ben elle irait ailleurs. Et pas obligé d'être brillant pour comprendre c'est quoi l'exemple que je peux vous donner. La radio à Montréal. La ville de Montréal est une des seules villes en Amérique du Nord de cette envergure-là, OK? Donc, tu sais, 2 millions et plus, là, où il y a seulement un talk radio privé, 98.5. C'est très rare en Amérique, Canada, États-Unis, qu'il y a juste un talk pour une ville de cette grosseur-là. Qu'est-ce que ça revient à dire? Bravo 98.5, mais quand quelqu'un veut placer en se disant « Moi, je pense que mes clients, ils écoutent plus la radio parler », un choix. Radio-Can ne vend pas de pub. Fait que si c'était la même affaire en télé, ben il y aurait du monde qui dirait « Hey, moi, je veux annoncer, je veux parler aux gens qui écoutent Radio-Canada. » Ah, peut pas. Donc, ou bien tu places pas, ou tu fais ce qui, logiquement, on comprend, ben tu places à TVA ou à Nouveau, ces chaînes spécialisées. C'est des revenus, c'est une autre paire de manches, là. Fait que c'est une question qui est débattable. Est-ce qu'il faudrait que, c'est-tu aux contribuables canadiens à rajouter encore du que je suis... Regarde, question à débat. Mais je fais juste vous dire que c'est une réalité. Donc, quand... Pierre-Carl Péladeau dit il y a quelque chose là-dedans dans l'époque où est-ce que les revenus tombent publicitaires, ben c'est une question à se poser. OK? Premier volet. Donc là-dessus, il y a deux volets. Il y a le type de gestion, c'est-à-dire que quand tu reçois de l'argent de subvention, etc., c'est sûr que tu n'as pas exactement la même gestion que quand c'est ton portefeuille, c'est ton argent à toi. C'est indéniable. Et puis, d'un autre côté, ben il y a, comme je vous dis, le fait que la tarte des revenus, ben Radio-Canada se garde des deux côtés, puis les autres sont obligés d'être juste dans le privé. Fait que là-dessus, il y a quand même un point. Maintenant, les dépenses. Là, il y a beaucoup de choses à dire. La première affaire, c'est que si vous avez regardé le spécial du gérant avec Louis Morissette, j'ai eu un débat avec Louis où est-ce que moi, j'allègue que la structure elle-même de la télé, c'est-à-dire une pause après 15 minutes, que tu fais comme, coudon, on est-tu rendu encore à cette étape-là où est-ce que le monde écoute 1h45 un podcast, puis après 10, 12, 15 minutes, vous leur sacrez une pub d'en face? Il n'y a pas un problème de structure rendu là? Puis quand je dis structure, c'est pas un problème de dire enlever la pub, je suis pas capable, ça prend des revenus. Mais je trouve ça un peu capoté que... Je vais vous donner un exemple. Mike est allé à Martin Matt, puis ma mère m'a appelé pour dire « Hey, je trouve que c'est la meilleure émission de Martin Matt à date, Mike, il était très, très bon. » Ma mère, 91 ans, là, c'est pas particulièrement Mike Ward là, qui est dans sa cible, là. Vous voyez ce que je veux dire. Puis j'ai même oublié, mais Mike, je pense qu'il m'écoute... non, il écoute pas Angle Mort, il écoute Patreon. Mais bref, Michel, tu lui diras. Tu sais, ma mère a trouvé que c'était... Puis je l'ai écouté, puis je suis obligé de dire que je suis entièrement d'accord, mais j'ai pas tout écouté les émissions à Martin, mais j'ai trouvé que c'était très, très bon, tu sais. Fait que si c'était très, très bon, cette entrevue-là, qui a été faite en deux sections, pensez-vous vraiment que si ça avait été en une section, ma mère serait partie aux toilettes? Non, elle l'aurait écouté à côté, puis probablement que ça aurait donné le goût, moi, c'est mon hypothèse, de rester tout le reste de l'émission. Alors que quand tu coupes de quoi dans le milieu, ça se peut que tu t'en ailles et que tu ne reviennes pas. Moi, je pense que les podcasts, qu'est-ce qu'ils ont envoyé comme signal à toute l'industrie, c'est une conversation intéressante, puis on s'entend que le registre est large, là, de couple ouvert à spécial du gérant, à sous-écoute, je veux dire, on ne parle pas de la même affaire, là. Puis pourtant, le monde, je vous parle de podcasts qui marchent, qui ont des vrais clics. Moi, en fin de course, mais quand même, c'est tout le temps des milliers de personnes qui écoutent mes épisodes. Puis je suis même pas drôle, là. Puis allez voir les commentaires en dessous du spécial gérant, voir si vous trouvez que c'est intense. C'est comme le monde, il aime ça. Genre, au-delà de tout ce que j'aurais pu penser, qu'est-ce que ça revient à dire? Une conversation, une simple conversation. Quand c'est mené avec du monde, tu sais, qui ont des trucs à raconter dans un registre immense. Drôle, irrévérencieux, sérieux. Les gens sont au rendez-vous. Pourquoi vous nous coupez ça dans le milieu? Ce segment-là qui coûte zéro, pas de sketch, pas de mise en scène, fuck all. Donc, pourquoi la première pause n'arrive pas juste après 20 minutes? Après, comprends-tu? Puis je l'ai faite, moi, dans le temps. Je sais de quoi je parle. Quand j'ai animé au 93 avec Paul Raphaël, la dernière heure, ça s'appelait Dans le trafic, c'était carrément spécial du gérant. Je prenais du monde, des politiciens, des personnalités connues, des artistes qui passaient. Puis en fin de journée, on commençait à 5h05, on finissait à 6h05. Là-dedans, j'enlevais pas un 30 secondes de pub, mais la première demi-heure, il y avait rien d'autre que deux personnes qui jasent. Je me faisais parler de ça plus que tout le reste de l'émission. Une émission de 4 heures, ça brûlait le marché. Puis c'est même pas à bonne heure, là. À 5 heures, là, il y a plein de monde qui s'en vont, là, trompez-vous pas, là. On est en radio, là. Fait que c'est un exemple parmi mille que tu fais comme... C'était ça mon point avec Louis. Puis je suis obligé de vous dire que quand je vois les hécatombes qui se passent, j'ai au moins la prétention de dire, bien, vous pourriez vous pencher là-dessus un peu. Quand je disais, il y a un problème de structure. L'autre problème que j'ai soulevé, tout le monde pense que c'est accessoire. Non, c'est névralgique. C'est la rémunération des vendeurs. Les vendeurs, dans les médias, sont payés à commission. Ça veut dire qu'ils n'en ont que pour le court terme. Si les vendeurs étaient payés 50 % commission, 50 % cote d'écoute, c'est-à-dire le rendement, bien, Calvas, au lieu de dire tout le temps « je vais prendre le plus gros nom disponible », des fois, il dirait peut-être « ah, ouais, Jay du Temple, ouais, mes clients ne savent pas c'est qui, mais Colin, je suis allé voir, j'ai fait une petite recherche, puis c'est vrai qu'il fit avec Occupation Double, on va le mettre sur la map. » Parce que ça, c'est le troisième point que je débattais avec Louis. C'est malade une industrie comme la TV et la radio qui ne crée pas ses propres vedettes, qui attend tout le temps que les vedettes le deviennent par elles-mêmes. Imagine si l'industrie des assurances était capable de créer son vendeur vedette puis son VP à l'interne, à faire juste peser sur leur bouton. Le monde, là, les industries pourraient dire « Hey, nous autres, là, on crée, en criant lapin, nos meilleurs éléments. » C'est impossible. C'est pas, comprends-tu? Tu te débrouilles dans ton industrie, en dessous du radar, etc. Mais les médias peuvent créer leur vedette. Ils ont juste à dire « Hey, lui, là, on sait qu'il est bon. Tu sais pas c'est qui, on s'en crisse. Je vais te le mettre d'en face. » Puis tu vas dire, hey, il est bon le jeune, puis go, on y va. Mais c'est pas dans leur ADN. C'est que c'est un autre volet quand je vous dis la structure. Louis, là, quand il me parlait vraiment comme un gars là, qui était non. Puis c'est pour ça que je disais, j'ai l'impression que toi, en dehors de ce qui passe avec aux vedettes, ça vaut rien. C'est tout le temps, c'est dur, animé, ça prend ci, ça prend ça. Moi, je continue à dire non. Non. Puis qui prouve ça, vous pensez? Les podcasts. Qu'est-ce que ça prouve, les podcasts? C'est un autre point de contenu. Les podcasts, ça prouve qu'il y avait une demande hallucinante depuis toujours pour de la radio qui parle de d'autres affaires que des affaires publiques puis d'actualité. De la radio parlée, bien entendu, parce que la radio musicale, il y a beaucoup d'humour, puis c'est un autre range de contenu. Alors, comment ça se fait que la radio parlée ne parle que de ça? Parce que ça a été kidnappé par des journalistes. C'est que des journalistes, c'est que l'esprit journalistique qui s'est rendu là depuis des décennies, puis qui fait en sorte que tout autre contenu qui aujourd'hui fait ses preuves à côté, sexe oral, couple ouvert, tout le monde saillit, ça a des dizaines de milliers de hits, c'est en croissance. Ça a donné une leçon à aucune radio, ils continuent à faire exactement la même affaire, puis ça a manifestement donné aucune leçon à la télé. Fait que c'était comme avant, ça prenait la permission pour faire ce contenu-là médiatiquement. Internet est arrivé, YouTube, Spotify. Puis là, tout à coup, t'as du monde comme moi qui ont fait « Hey, je vais faire un audio tranquille, puis on aime que pourra. » Pas en tous les chiffres, c'est même pas les chiffres du spécial du gérant que je fais avec ce que vous écoutez aujourd'hui, mais calvasse, j'approche toujours bien le 1000 abonnements juste dans Spotify avec, je vous répète, je parle dans mon iPhone, je fais aucun montage, l'intro musicale, c'est mon téléphone à côté de mes haut-parleurs. Il y a comme... Non, ça parle à personne. Ça fait qu'il y a vraiment quelque chose. Ceci étant dit, à la décharge de tout ce que je viens de vous dire, les cotes d'écoute en télé sont au rendez-vous. Alors, c'est pas comme si on dit... Pour une certaine clientèle, pour les jeunes, c'est vrai que c'est très problématique. Très problématique. Mais les codes d'écoute en général sont au rendez-vous avec un auditoire vieillissant. Oui, puis non, faites attention. Si vous prenez un Polaroid de l'auditoire de TVA aujourd'hui, la moyenne d'âge, je crois, est de 55 ans. C'est-à-dire que vous dites « Ah, c'est vieux, c'est vieux ». Mais c'est pas 55 ans, l'an prochain, ça va être 56, l'an prochain, ça va être 57. Ça se maintient. Pourquoi? Parce que les gens vieillissants, ils changent aussi d'intérêt puis de façon de faire. Il y a un peu de ça. Alors évidemment, ceux qui ont aujourd'hui 67 n'étaient pas sur YouTube à 20 ans, ça n'existait pas. OK, fine, je comprends qu'il y a des habitudes maintenant qui se sont créées, puis les jeunes vont les transporter jusqu'à leur mort. Parfait. Mais il reste qu'il y a une autre affaire qu'il faut comprendre. On en parle souvent avec Sylvain à la radio. C'est que moi, quand j'avais 25 ans, j'écoutais pas ça, la radio parler. Là. Ça m'intéressait pas ce qui se parlait en radio parler. Tout à coup, tu vieillis, tout à coup, tes allégeances changent, t'as une hypothèque, t'as des enfants, t'as... Oup! Les affaires publiques commencent à te... Ils te résonnent une coche de plus, tu comprends? Moi, je parlais avec une de mes chums. Mais pas plus tard que jeudi, qui suit rien de l'actualité, rien. C'est une fille qui fait de la gestion de changement. Elle a un bac en gestion du changement. Elle a travaillé chez CAE, les simulateurs, là, chez Solotech. Je veux dire, elle emmène large, là. Elle est au courant de rien. Elle ouvre pas un journal, elle écoute des podcasts, elle écoute des séries comme tout le monde, mais tu vois que pour elle, puis sérieusement, sa vie se déroule très bien. C'est une citoyenne, moi j'en voudrais plaider de même. Elle travaille, ouais, let's go. Mais elle est au courant de rien. Comme quoi, souvent, c'est juste du bruit. Moi, je suis un passionné d'actualité. Je parle de ça. J'en ai fait une partie de carrière, si tu veux, là, comme chroniqueur. Mais pour être honnête avec vous autres, là, si, mes collègues vont dire que c'est important, il faut être informé. Dans la vraie vie, là, c'est-tu vrai que c'est si important que ça? Il y a tellement de monde qui sont courants de rien. Moi, s'ils ne causent pas de troubles, ils ne sont pas des criminels, ils payent de l'impôt, ils travaillent. Le reste, je veux dire, regarde... Ça fait qu'il y a tout ça aussi, là, tu comprends? C'est comme, il faut faire bien attention là, d'avoir des solutions trop faciles dans cette affaire-là. Mais ça ramène donc à la question du financement. Parce que si les codes d'écoute sont au rendez-vous, ça veut dire que le contenu est de qualité. Même si moi, je ne suis pas un client de TVA ou de la télé en général, je trouve, parce que je m'intéresse à ce qui se fait sans en être un fan, c'est vrai que c'est très, très, très bon. Puis ça frôle le miracle. Les tournages, maintenant, il faut que tu rentres en une journée ce que tu faisais en trois, etc. Puis je pense que personne n'a pâti. Donc, ça revient au point numéro un, c'est-à-dire le financement. Et là, évidemment, l'éléphant dans la pièce, c'est le fait que les médias sociaux ont ramassé de façon outrageuse une somme faramineuse du placement publicitaire. Et je suis obligé de vous dire que moi, toutes les lois pour C-18, puis de dire non, puis Facebook payer tout, j'y crois pas zéro. D'ailleurs, à date, ça a eu aucun effet, sauf négatif. C'est-à-dire, j'y crois pas zéro. Je pense que il y a eu un virage numérique qui a tardé. Je crois que ce que Louis Morissette me dit dans mon épisode du spécial du gérant, où il dit que la prochaine étape, clairement, ce serait une plateforme québécoise pour tous les contenus télé. Moi, j'y crois total, complètement. Puis il dit, le seul problème, c'est que Pierre Carl ne veut pas embarquer dans rien. Peut-être qu'il va commencer à être parlable parce que là, c'est l'hécatombe totale. Et quand tu dis qu'ils vont fermer le 1600 de Maisonneuve, ils vont faire des logements sociaux. Je veux dire, il y a un symbole là-dedans. Là. Ça, c'est sûr que d'après moi, Tout TV, Nouveau, Crave, chacun sa petite plateforme, chacun son 14 piastres par mois, Il y a un bout où tu fais « Hey man, sais-tu quoi? » Je veux dire, je pense qu'il pourrait avoir, à la rigueur, un abonnement payant, pourquoi pas, mais ça pourrait être aussi gratis avec de la pub. Puis là, ça devient un rendez-vous où tous les annonceurs du Québec vont dire « Ben voyons, il y a un Netflix, ça pourrait s'appeler Netflix. » J'adore être lié à ce projet-là, d'ailleurs. Fait que t'aurais Netflix, t'ouvres ça à côté de ton Netflix, puis ça, c'est tout ce qui est québécois. C'est que si t'aimes ça, t'as du TVA, du Radio-Can, man, cherche pas, c'est tout là. Tu peux continuer à l'écouter, si tu veux, à l'heure que ça passe ou autre, mais sinon, tout le monde va là. Puis c'est tellement simple, c'est pareil revenu. C'est super facile. Qui clique où? Comment avec YouTube? Moi, pensez-vous que je jalouse les clics à Mike? Ben non, ces clics, puis les miens, d'ailleurs, plein de monde écoute les deux, on se comprend-tu? Puis au pire, quand il a cliqué lui, ben il y en a un autre ailleurs qui va cliquer chez nous. Puis au plus fort la poche, c'est pas limité. C'est pas comme genre, ah, vous avez le droit à 1000 clics, séparez-vous ça à la gang. Non. Il peut avoir 8000 clics de plus demain, 1 million. Ça fait que sérieux, comment les revenus, quel serait l'ordre des revenus, je le sais pas. Mais je te dis juste que sérieusement, chacun qui tire de son bord actuellement, où personne dévoile ses chiffres en passant. Ça fait que je suis loin d'être sûr que tout.tv, là, l'abonnement payant, puis tout, c'est la manne, puis c'est comme... Puis comme le disent du monde, puis à la Sophie Durocher ou autre, je suis obligé de leur donner raison, tu payes dans tes impôts, tu repayes après, tu sais, comme pour La Petite Vie, pour les voir avant leur diffusion en février. Même au plan éthique, tu fais sérieux, là. Comprends-tu? C'est comme si je disais, ouais, je paye déjà pour des services quand je vais chez le médecin, puis en même temps, tout à coup, il me demande 100 piastres parce que son chalet, il arrive pas, là, tu sais. C'est à un moment donné, bon. Ça fait que grosso modo, il n'y a pas de solution facile. Je pense que des plateformes unifiées, c'est un must. Puis l'autre affaire, ben comme j'ai essayé de vous le décortiquer un peu, sérieux, là, il va falloir vraiment que tous les médias se posent des questions. Puis regarde qui donne des leçons à qui. Puis l'univers du podcast, qui est indéniable, ça les intéresse tous. Là, il faudrait peut-être qu'ils commencent à approcher les gens qui ont un succès là-dedans, puis juste aller luncher. C'est pas normal qu'un directeur des programmes aujourd'hui demande pas à Mike Ward ou à Michel Grenier ou à Thomas Lévesque ou aux deux qui font, tous ceux qui font des podcasts qui roulent, là, de faire comme « Hey, sais-tu quoi? Je pense pas que tu vas en 90 minutes me donner toutes les solutions, mais man, là, il faut que ça arrête de jouer en silo. C'est une vraie farce, là. C'est incroyable, tu sais. C'est comme... Moi, ma sœur est dans le cosmétique, tu sais, puis à partir du moment où Sephora est arrivé, ils ont tout brisé, entre guillemets, la distribution dans les centres d'achat avec le gros kiosque et tout. Ils ont fait, nous autres, on fait un magasin, tout le monde... L'exemple que je vous donne, là, c'est exactement le même exemple pour la télé. Sephora, eux autres, ils ont dit, c'est-tu quoi, on fait plus des petites ententes de... On ouvre un magasin, on dit, venez, tout le monde. C'est un genre, là, de Walmart, de la cosmétique. On va mettre un beau design intérieur, etc., puis, ah ouais, mettez vos produits là, puis tout. C'est plus des chasses gardées, etc. C'est comme c'est comme le Netflix que je vous parle. Ça s'appelle Sephora. Puis quand ils ont fait ça, là, ça a traumatisé la business. Il a fallu que tout le monde s'ajuste sa distribution. Comme l'arrivée d'Amazon. Puis c'est drôle, hein, parce que je vous parle de ça, puis je vous ai fait un épisode en début de semaine, rappelez-vous, ça s'appelait... Je parlais de distribution. Mais je l'ai fait surtout à radio, là, mais c'est le nerf de la guerre. Ça fait que, donc, en un mot, je vois trois axes de ça. Un, Radio-Canada devrait arrêter de faire de la pub. Arrangez-vous avec le reste. Vous avez déjà un chèque gratos qui tombe du fédéral. C'est à votre tour de couper. Deux, les vendeurs doivent arrêter d'être uniquement à commission. Il faut absolument que leur rémunération soit reliée au résultat pour qu'elle ait la même vision que le directeur des programmes qui dit « Garde, on va en prendre qui tire peut-être moins en partant, mais on va se bâtir nos vedettes puis on va être intouchable. » Qu'est-ce qui est arrivé à Radio X, d'ailleurs, en passant, qu'on aime ou pas, hein? Radio X, là, pendant des années, parce que depuis le départ de Jeff Filion, c'est clairement pas le même chiffre, là, mais pendant le règne Filion, phase 1 et phase 2, plus Dominique Moret, etc., donc du monde qui tire et tire encore, ils ont créé leur vedette de A à Z. Ils ont acheté personne qui était déjà big ailleurs à TV ou dans une autre station. Ils ont créé leur truc. Bang, bang, bang. Puis qu'est-ce que ça... Week-end, la même affaire. Week-end à Québec, là, Martin Dallaire, je faisais de la radio avec il y a 20 ans. Martin, là, il a une carrière de feu. Il est le morning man numéro 1, si je ne me trompe pas, dans le 25-54 à Québec. Radio musicale, là. On est de bonne humeur, on a du fun. Week-end et Choix n'ont pas eu une stratégie d'acquisition de vedettes. Ils ont une stratégie, on va monter notre talent. Et qu'est-ce que ça fait dans ce temps-là? Ça devient que l'antenne est plus forte que tous les membres. L'antenne à week-end, l'antenne, c'est des antennes... Le monde sont scotchés là depuis l'ouverture. Fait qu'au début, c'est plus tough, puis à un moment donné, tu surfes là-dessus. Martin, il part demain, là, j'ai le premier à l'admettre. D'après moi, ses chiffres du matin vont rester pas mal les mêmes, parce qu'il y a un bout de c'est musical, les gens aiment la vibe, etc. Quand tu es tout le temps en train d'aller chercher le plus gros nom disponible, quand le gros nom s'en va, il s'en va avec sa gang. C'est très différent. Alors, voici, moi, grosso modo, les points que je vois qui pourraient aider, puis je le répète, OK, c'est un truc qui m'intéresse. Je considère que j'ai une bonne tête à ça, mais si vous me demandiez demain, règle-nous tous les problèmes. Mais au moins, le garde, j'en soumets des pistes, là. Il y a vraiment des affaires là-dedans au niveau du financement qui devraient être corrigées, au niveau du contenu, la même affaire. Puis de grâce, allez, il faut qu'il y ait un pont qui se fasse maintenant entre le succès des podcasts qu'on connaît. Puis là, je vous nomme ceux qui sont sur YouTube, mais il y en a plein dans audio qui ont probablement full succès aussi. Puis il faut que ces gens-là se parlent. Fuck it, parlez-vous. Faites un crossover, faites en sorte que le monde de podcast s'en aille avoir une présence sur votre antenne. Leur paye, ça va être des hits de plus, puis encore. Mais quand même, il y a des ponts à faire, ça se peut pas, là. Ça se peut pas. On parle de gens qui sont médiatisés. Je sais de quoi je parle. Je suis un des rares qui a à la fois, pas un, mais deux podcasts, dont un qui marche pour vrai, puis je suis à Cogeco, au FM 93 à 11h30 tous les jours. Il y en a combien des Marc Boilard sur le marché? Il y en a combien qui sont réellement actifs dans les deux univers? Il n'y en a pas tant, là. Ça devrait être quasiment une norme. Ou du moins que les individus là-dedans... Fait, en tout cas, bref, moi, c'est un des volets. C'est pas le volet principal, mais je lisais le post de LinkedIn de Stéphane Bureau, puis il disait ça. C'est-à-dire qu'il parlait du « nous », en parlant de l'industrie, là. Ça se peut-tu, là, que... On est encore en train de faire les mêmes affaires qu'il y a 20 ans. Puis ah ouais, let's go. En tout cas, regardez, il y a beaucoup de jus là-dedans. Je vous laisse réfléchir à ça. Et puis, voilà. Et je m'en vais faire mon épisode sur le show de Jean-Thomas Jobin qui sera dans mon Patreon. Merci à ceux qui s'abonnent pour l'énorme somme de 3$ par mois. Mais quand je vois un ding-ding-ding comme ça, il y en a de plus en plus, c'est toujours le fun. Et merci de me suivre dans Angle Mort, bien sûr. Salut tout le monde. Bon week-end.